Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. Bonjour Laurent Audras.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission à la mairie de Dieulefit, chargé de mission pour le développement et la valorisation de la montagne de Saint-Maurice. Depuis 3 ans maintenant, la commune de Dieulefit a pu racheter l'une de ses montagnes emblématiques et ses habitants peuvent de nouveau profiter de sa nature luxuriante. Ce n'est pas chose courante de ne plus avoir accès au patrimoine naturel près de chez soi. La montagne de Saint-Maurice était privée depuis plus d'un siècle. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire folle de cette montagne, Laurent Audras?
Je vais essayer de vous raconter ça. Alors, je vais vous le faire de manière sommaire. On ne va pas y passer trop de temps. Donc,
Vaut le coup quand même.
Voilà, cette montagne appartenait à une personne qui était assez aisée dans la ville de Dieulefit. Non, je vous dis une bêtise. Tout à l'origine, elle appartenait à la commune.
Ah oui,
qui a eu besoin d'argent pour construire le pont qui se trouve entre la mairie et la place du marché. Ce pont que tout le monde peut bien voir où il se trouve. Donc ce pont nécessitait des frais et la commune n'avait pas l'argent pour le construire. Donc elle a décidé de trouver une solution et de vendre la montagne de Saint-Maurice qui lui était acquise à la personne qui avait le plus de possibilités financières à ce moment-là, qui a accepté l'échange. Donc il est devenu propriétaire, mais il a laissé continuer à vaquer les habitants de Dieulefit comme il le faisait jusqu'à présent.
C'était un bon échange.
Voilà, c'était un bon échange. Et donc, la commune a pu construire ce pont, que l'on utilise tous les jours. Et donc, cette personne a fait que la montagne continue à fonctionner. Il y avait une production de lavande au sommet, il y avait des charbonniers qui coupaient du bois. Et puis, donc, cette personne a eu aussi quelques problèmes d'argent, enfin, ses héritiers. Et donc, ils ont revendu cette montagne à une autre personne, qui, lui, par contre, en a fait une chasse privée. Et là, ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'une chasse privée donc, nécessite de savoir qui est présent sur le site, pour pas qu'il y ait de problème sur un tir de chasse. Et donc, il a fermé complètement la montagne. Et comme il y a des habitudes qui avaient été prises, justement, de pouvoir accéder au bon gré à cette montagne... Ça a eu pour effet qu'il y a eu quelques conflits entre les usagers qui souhaitaient continuer à être usagers et puis le propriétaire.
Pendant un temps assez long, les Dieulefitois n'avaient plus accès à leur montagne.
Voilà, donc j'ai pas connu cette période-là, mais j'ai vu des photos avec des barrières assez imposantes, des panneaux très durs. Et puis donc en fin 2013, donc, la municipalité a eu l'opportunité de racheter cette montagne.
Et ça y est, c'est enfin revenu dans le domaine public.
Et donc la question suivante qui a été posée aux élus, c'est bien de l'avoir racheté, nos anciens sont contents, mais maintenant il faut en faire quelque chose.
Comment on s'en sert, comment on la valorise, et c'est là que vous êtes arrivé, Laurent Audras, tel un sauveur peut-être.
Ouais,
vous êtes vous-même un grand passionné de nature.
Voilà, j'ai quelques pratiques par ailleurs sur le sujet, et c'est vrai que j'ai une approche assez pragmatique qui fait que les élus apprécie ma manière d'approcher ces sujets.
C'est quoi une approche pragmatique l'environnement naturel ?
J'ai pas d'a priori sur les personnes. Par exemple, les chasseurs. Moi, j'ai aucun problème avec les chasseurs. Je suis pas chasseur moi-même. J'aurais du mal à tuer un animal. Par contre, j'en comprends quelques tenants et aboutissants qui font que j'ai pas d'a priori. J'accepte assez facilement tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut suivre quelques règles. Et plutôt que de se bronquer avec certains, il vaut mieux discuter. Par exemple, à Saint-Maurice, la chasse n'est autorisée que le jeudi et le samedi. Ce qui fait que vous promenez le dimanche, vous ne rencontrerez pas de chasseurs sur la partie communale. Il n'y aura pas de chasseurs, vous vous promenez le mercredi, il n'y aura pas de chasseurs sur la montagne de Saint-Maurice. Et ça, c'est uniquement... Justement par cette approche, c'est-à-dire qu'on parle aux gens, faut être ouvert et expliquer le tenant et les aboutissants. Et ça s'est passé très très bien. Quand on a mis en place notre programme au départ, tout de suite on a mis ça on a mis ça en contrat avec les chasseurs.
J'imagine effectivement que c'est l'une de vos missions et que ce n'est pas la plus facile de mettre tout le monde en accord.
Alors c'est la plus intéressante
pour tous les utilisateurs, d'accord.
C'est la plus intéressante parce que c'est un moment de partage. Pendant toute l'année de 2014, en fait, toute l'année, j'ai travaillé sur la mise en place des actions qu'on allait écrire noir sur blanc. Et ça s'est fait dans une concertation. C'est-à-dire que tout le monde pouvait participer. Il fallait quand même avoir un peu de connaissances sur le sujet à chaque fois. Hein. Il y a eu une réunion publique où on a expliqué la démarche. Et puis plusieurs petites réunions, on appelait ça des ateliers d'acteurs, où les gens pouvaient venir exprimer leur vision. Après, il fallait que ce soit des choses
réalistes.
Hein.
Vous avez eu des choses un peu folles.
Ah oui, on m'a proposé de mettre un téléphérique entre Dieulefi et la chapelle. C'était original. Hein.
C'est parce que tout le monde ne peut pas monter la montagne Saint-Maurice.
Alors, ça, on en reparlera plus tard. Parce qu'il y a moyen. Et donc, voilà, des gens qui pensaient qu'on pouvait faire des choses. Mais voilà, Dieulefi, c'est pas l'Alpe d'Huez. C'est pas dans l'air du temps de faire ce genre d'installation. Par contre, moi j'accepte l'idée. Après, il faut juste expliquer aux gens pourquoi on peut pas le faire. Là, c'est essentiellement des raisons financières et puis environnementales. Mais toutes les idées sont bonnes. La personne qui l'a certainement dit de manière spontanée, en se disant pourquoi pas.
Quelles sont vos autres missions, Laurent Audras, par rapport à votre au développement de la montagne?
Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai deux objectifs qu'on a fixés dès le départ. Le premier, c'est la préservation de l'espace naturel. Donc, qui demande des aménagements bien particuliers. Le deuxième, c'est l'ouverture au public. Et pour l'anecdote, j'ai souvenir, un jour, j'avais un stagiaire à l'époque, on est allé manger à midi à la chapelle, et on a vu arriver un papy, 72 ans, avec son sac à dos à l'ancienne, le vieux sac à dos La Fuma, avec l'armature alu. Et alors déjà, il était un peu grognon parce qu'il avait vu la voiture. Et, il s'en montait en voiture. Mmh. Merde, c'est pas normal.
Je comprends.
Et puis, moi, nous, on n'avait qu'une heure et demie pour manger. Donc. Et puis, donc, après, on parle et assez facilement, on lui a fait comprendre qu'on n'était pas des méchants, qu'on était là pour la bonne cause. Et puis, donc, finalement, il s'est installé avec nous, il a mangé avec nous. Et au cours de la discussion, donc, il nous racontait sa vie. Moi, je monte tous les ans, je monte à la chapelle parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Mais il y a 12 ans, elle a disparu. Et maintenant, tous les ans, ben, je reviens parce que c'est là où je lui ai demandé en mariage. Et puis, on voyait la petite larme qui commençait à tomber sur sa joue. Vous vous rendez compte, 72 ans, comment je vais faire quand je ne pourrai plus marcher? Là, je peux marcher, donc c'est bien. Mais, et quand je ne pourrai plus, ben, je ne pourrai plus venir. Et c'est là qu'on a compris tout de suite. Il faut qu'on ait la possibilité de monter. Mm. Par tous les moyens, il faut qu'il y ait toujours cette possibilité.
Notamment parce qu'il y a ce pèlerinage annuel. Là, c'était le pèlerinage personnel de ce monsieur. Mais
et donc, l'idée, ça a été de... Comme il faut quand même préserver le site, l'idée, ça, on a mis en place, on a profité du fait qu'il y avait une barrière en bas due au camping Utopia. Et on a profité du fait qu'il y avait cette barrière pour rajouter un lecteur de badge. Et donc, si quelqu'un veut monter demain à la montagne Saint-Maurice, il vient à la mairie, on lui fournit un badge, c'est gratuit. En échange, on lui demande ses coordonnées pour au cas où. Et surtout, on définit un moment où on lui donne le badge et un moment où il va le rendre. Et donc, on peut...
N'importe qui peut monter en voiture
Il faut venir nous voir pour qu'on puisse dire... Par exemple, il y a des moments où on fait... où il y a trop de neige, par exemple. D'ici, on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais des fois, il peut y avoir un mètre de neige là-haut et rien ici. On peut toujours dire à la personne, à ce moment-là, non, là, ce jour-là, venez pas parce qu'on ne peut pas vous autoriser à monter. C'est trop dangereux. Ou parce qu'il y a une coupe de bois, ou parce que pour des raisons diverses. Donc voilà, ça nous permet juste de réguler. Et puis si j'ai quelque chose d'important à rajouter, par exemple, si la personne me dit je vais aller jusqu'aux antennes, si c'est au fin avril, je lui dirais restez bien sur la route parce que avancez doucement dans les pelouses parce qu'il y a des pulsatilles rouges qui poussent. C'est une plante qui est protégée, qu'on trouve essentiellement ici. Donc je peux lui expliquer les problématiques de ce genre-là. Et ça passe assez facilement.
Ça permet d'être en lien avec les gens, voilà. Et qu'ils ne fassent pas non plus n'importe quoi, parce qu'on n'y pense pas toujours, en fait, qu'on peut nuire à la nature juste en marchant dans l'herbe, par exemple.
Et puis, le pire, c'est quand on me répond « je ne savais pas ». C'est l'horreur, parce que ça veut dire que, quelque part, j'ai pas assez communiqué, j'ai pas assez expliqué la problématique du site. Donc, il faut vraiment aller au-delà. C'est pareil, on a des restrictions, par exemple, on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut tenir les chiens en laisse. Donc on pourrait dire uniquement c'est interdit, les chiens sont interdits s'ils ne sont pas tenus en laisse. Non, on essaye d'aller plus loin, on leur explique c'est pour le bien de votre animal, parce que si il commence à partir après un blaireau qui rentre dans le trou du blaireau, votre chien il est mort. Et c'est bien aussi pour la nature, parce que ben, y a des chamois au sommet. Si votre chien part après un chamois, une, le chamois ça ne va pas l'arrêter. Deux, votre chien, il va se retrouver à soupière, il va se retrouver bien plus loin que là où vous le pensez.
Ça, c'est une grande thématique, savoir se comporter avec son chien en randonnée, c'est une thématique.
Par exemple, en ce moment, on vient de finir une phase d'entretien des pelouses sèches par du pâturage. On avait une petite trentaine de chèvres rauves qui étaient au sommet avec une petite dizaine de moutons. C'est pas possible, quoi. On peut pas arriver avec un chien, un randonneur qui arrive avec son chien qui est pas tenu en laisse et les animaux qui sont là, avec les falaises qui sont au bord, c'est une catastrophe.
Vous venez de finir.
Oui, surtout que la première neige, ils ont pas aimé.
C'était des éleveurs d'ici.
Un éleveur local, oui, Jérôme Girard, qui est du côté de Compes, entre Compes et Touinas, et qui a mis quelques bêtes pour tester, en fait. C'est un petit test au départ. Et puis, en fait, ces bêtes ont tellement été bien pris là-haut, elles étaient bien plus grasses que celles qui étaient en bas, parce que l'herbe y est bonne et le climat leur correspond.
Quelles sont les particularités de la faune et de la flore de la montagne de Saint-Maurice? Et est-ce qu'il y a sur cette montagne des choses qu'il n'y a pas ailleurs?
Alors, il y a quand même deux, trois choses intéressantes. D'abord, quelque chose qui est très important, qui moi, me touche encore, pourtant j'y monte assez régulièrement, c'est les paysages. Il faut bien prendre en compte que les paysages font partie de la nature, hein, c'est important. Quand vous arrivez par cette espèce de cathédrale de hêtres, quand vous arrivez à la chapelle, que vous contournez la chapelle...
La vue s'ouvre.
Voilà, vous avez une vue qui est exceptionnelle. Quand vous allez
sur le synclinal,
aux antennes, le sud. Quand vous allez aux antennes et que vous voyez le Ventoux tout au fond, la Lance, Mielandre, c'est magique. Donc ça, c'est déjà une partie. Autre chose, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, les pussatilles rouges. Donc c'est dans le sud-est de la France, c'est le seul endroit où il y en a. Donc effectivement, il y en a aussi aux plaines. Hein. Il y a des endroits qui sont presque, enfin, bien plus vastes qu'à Saint-Maurice. Mais bon, les plaines, c'est un terrain privé. Donc là, après...
Ce sont des petites fleurs?
C'est des petites fleurs qui ont un petit rouge pourpre. Les diolfitois, on a fait une petite animation pour leur expliquer à quoi ça pouvait ressembler dans le Jabron, vous avez peut-être dû le voir. Donc c'était, en gros, les fleurs qu'on avait faites sont quatre fois plus grandes, quatre fois plus grosses que celles que les réelles. Donc c'est une particularité, tout le monde pense que c'est l'anémone commune, la pussatille commune, mais c'est pas vrai, c'est vraiment elle est très spécifique celle-là, de la pourpre. Donc ça déjà. Ensuite on a un couple d'aigles. Donc, on ne va pas trop dire où il se trouve,
non,
mais...
Le mieux, c'est de ne pas dire où il se trouve,
parce qu'il est très sensible à ça. En plus, le mâle a perdu sa femelle il y a 2 ans. Il a retrouvé une femelle juvénile. Donc, il ne faut pas trop les embêter en ce moment.
Quelle espèce d'aigle?
C'est un aigle royal.
D'accord. Ouais.
Voilà, c'est une période qui est un peu... Et puis, les aigles, en plus, sont plusieurs aires. S'il niche pas chez nous, il va nicher sur une autre aire qui est dans son secteur aussi. Hein. C'est 100 km², son territoire.
C'est énorme.
En plus, ici...
donc, ça veut dire qu'il se trouve bien sur la montagne de Saint-Maurice,
ouais,
en fait.
Oui, tout à fait. Généralement, les aigles, 80% de leur régime alimentaire, c'est des marmottes. Et chez nous, bon, je pensais plus les lapins.
Il n'y a pas de marmottes sur la montagne Saint-Maur, voilà, c'est
on
trop.
On n'a pas les marmottes. Mais on a les chamois, hein, quand même.
Il y a une importante population de chamois.
Oui. Enfin, moi, je les vois assez régulièrement, mais il y a une petite horde de 12 animaux qu'on trouve régulièrement. Et puis, il y a les jeunes mâles, au bout d'un moment, sont refoulés. Et les jeunes mâles descendent un peu plus. Ils sont souvent dans les pierriers qui sont au-dessous de la crête. Et donc, il y a essentiellement des femelles avec des petits qui se mettent généralement à proximité des antennes dans ces coins-là. Ensuite, autre spécificité, c'est sa structure, le synclinal. Hein, on parle toujours du synclinal de la forêt de Soue, mais le synclinal de la vallée de Dieulefi, à part rougir de sa forme, c'est vraiment le synclinal.
Il donc, est moins, oui, pour repréciser, moins resserré. Le synclinal, donc c'est un cirque de montagne qui crée.
Ouais, c'est un pli. Vous imaginez, quand vous pliez vos vêtements, ça fait une montagne, un creux, une montagne, un creux. Il faut imaginer que le creux, Dieulefi est au milieu d'un creux, et que la montagne qui est entre les deux creux, en fait, c'est une montagne qui avait au-dessus de Twinas, sous. Donc il faut imaginer que là, il y avait une montagne avant, ou qu'il y a un creux maintenant. Et l'érosion a fait disparaître cette montagne et a gardé juste le creux du pli. Et Dieulefi, donc, c'est un synclinal.
Je ne savais pas.
Ça se saurait, si tous savaient. Ce serait pas drôle si on savait tout.
Non, mais c'est vrai qu'on connaît le synclinal dessous. D'ailleurs, on le voit depuis.
Ouais, mais on n'a pas à rougir. Il est vraiment parfait. En plus, quand vous montez par la route forestière qui a été ouverte aux voitures, à un moment, vous passez à proximité du vallon de Salera. Et on voit sur le versant en face, on voit bien la couche qui fait vraiment le pli de la courbure. Et c'est vraiment, géologiquement, c'est extraordinaire.
On sent que vous l'aimez, vous, cette montagne.
Ce serait dommage que je ne l'aime pas. Quand même.
Oui, mais vous n'êtes pas forcément d'ici. Vous êtes arrivé pour vous en occuper. Et oui. Il semblerait, quand vous en parlez, que...
Je prends les choses à cœur, c'est sûr. Heureusement, même. L'autre chose qui, à mon avis, est... Ah, ça se sentit, ça.
L'autre chose qui est... quelques oiseaux.
L'autre chose qui est importante
pour changer
aussi...
de sujet.
L'autre chose qui est importante aussi, c'est la diversité. C'est-à-dire que vous êtes en bas, à côté de... En bas de la montagne, vous avez un champ de lavande. Vous commencez à monter par les chemins. Donc on a ouvert un chemin de crête qui, justement, est adapté à cette acquisition du savoir. Vous commencez à monter, vous êtes dans les pins sylvestres. Ensuite, il y a quelques chênes qui se mêlent au milieu, quelques chênes blancs, quelques buis, il y en reste. Quelques buis, vous continuez à monter, il y a quelques chênes, quelques pins noirs qui sont là, qui ont été plantés, mais bon, qui tout doucement, on ne les voit plus.
Oui.
Ensuite, on se retrouve qu'avec des chênes, puis tout doucement, progressivement, il y a un mélange chêne et trait. Quand vous arrivez sur la partie haute, vous avez un mélange chêne-sapin, avec deux espèces de sapins sur cette montagne. Mmh. Et tout au sommet, donc, quand vous arrivez aux antennes, vous avez des pelouses sèches. Mmh. Et donc c'est vraiment, quand vous faites une image de les strates végétatives d'une montagne, vous avez exactement ça.
Il y a une gradation.
Voilà, la gradation, et on la voit, elle est marquée. Et c'est vrai que c'est important, parce qu'en une heure de temps, vous avez, une heure et demie, vous avez vu toute la végétation que l'on peut voir du méditerranéen jusqu'à la montagne. Alors, de pelouses sèches, ce n'est pas des pelouses de très haute montagne, mais c'est un début.
Ça donne envie d'aller randonner avec vous, en tout cas, et de découvrir la montagne accompagnée. Alors,
c'est un peu le problème que j'ai, par contre, c'est que je ne suis pas diplômé pour pouvoir accompagner les gens. Si j'avais ça en plus, ce serait le paradis, parce qu'on pourrait justement organiser des choses plus intéressantes dans ce sens-là.
Alors, je vous ai préparé quelques oiseaux, parce qu'on va passer à ce deuxième sujet qui vous tient à cœur, et cette mission que vous avez au sein de la mairie depuis quelques mois. Ce qu'on entend là, cet enregistrement, ce sont des passereaux. Et la mission que vous avez s'appelle 50 arbres, 50 nichoirs. C'est une proposition faite au territoire pour augmenter cette population de passereaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les passereaux ? Moi, je croyais que c'était les moineaux, mais...
Non, c'est, en fait, c'est une famille qui est assez vaste. Hein. On y trouve dedans, de mémoire, ça va jusqu'au corbeau, d'ailleurs, qui doivent en faire partie. Il y a toutes les mésanges, les pinsons, tous ces petits oiseaux qui nichent, en fait. Et donc...
C'est les oiseaux nicheurs, hein, c'est, voilà, ça, et, c'est ça. Et les chanteurs aussi, en fait.
Tout à fait. Mm. Tout à fait. Oui, c'est deux éléments qui les caractérisent.
En gros, ce sont les oiseaux qu'on retrouve dans nos jardins quand on habite ici.
Voilà. Et pourquoi cette action ? Alors, faut revenir un petit peu en arrière. Donc, on a tous vécu l'arrivée de la pyrale. Et en parallèle à ça, moi, ça fait depuis plus d'une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu, et on m'a toujours dit, on a une perte des effectifs, il y a un problème sur les passereaux, on voit des espèces entières qui disparaissent de certains sites où ils étaient présents depuis très longtemps, mais ça fait depuis plus de 15 ans que les spécialistes en parlent.
Et on ne sait pas ce qui se passe, en fait.
Si, on a une vague idée, je vais y revenir après, et c'est vrai que... Le fait de perdre cette diversité, c'est ce qu'on appelle la biodiversité, cette diversité de ces oiseaux-là avait un rôle dans...
Mais notamment dans le fait de manger les insectes.
Tout à fait. Mmh. Là, pourquoi on a une surpopulation de chenilles processionnaires ? Parce qu'il n'y a plus les passereaux. Les mésanges tapent dans les chenilles processionnaires, n'ont aucun problème avec les petits piquants des chenilles, les mangent. Avant, quand elles commencent à faire leur nichoir, elles vont tirer les fils des nids des chenilles processionnaires pour faire leur nichoir. Et quand elles sont arrivées aux chenilles, elles mangent les chenilles. Donc il y a vraiment, par exemple, les mésanges, sont particulièrement adaptés pour lutter contre les chenilles processionnaires. Est arrivée la pyrale, et là, ben, le constat est encore plus flagrant, parce que c'est une population qui se développe de manière exponentielle, c'est une horreur, et c'est là où les élus de Dieulefi ont eu le réflexe, que beaucoup d'autres n'ont pas eu, hein, de dire...
De tout de suite s'atteler au problème, de se poser la question par rapport à la montagne aussi. Hein,
écoute, Laurent, vois ce qu'on peut faire. Et donc, mon objectif, c'était de préserver un maximum les buis de la montagne Saint-Maurice. Et plus je détruis de pyrales dans la vallée, mieux je me porte. Mm. Bon, ça a été un peu plus compliqué après. Hein, on a subi quelques revers, mais on essaye quand
même... Vous avez trouvé une solution miracle ?
Alors, miracle, non, mais des solutions. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire, c'est la nature, il faut laisser faire, le buis, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est juste une valeur essentielle dans notre paysage. Mais... et puis, la nature, nous, on en fait partie, et on a notre rôle. C'est les hommes qui ont importé la pyrale en Europe, hein. C'est notre faute. Alors bon, c'est pas nous, habitants de Dieulefi, hein, nous on a subi plus qu'autre chose, mais on a notre rôle. Et on a eu quelques possibilités d'action, mais d'entrée, bon, il y a les traitements pour les buis en ville, par exemple. La haie qui se trouve le long du parc de la Baume, la haie de buis, elle est toujours debout. Mmh. Les buis qui sont dans les pots dans la rue du Bourg, ils sont toujours debout.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?
Du traitement. Un traitement bio qui permet de détruire les chenilles qui ingèrent ce produit, qui leur coupe la faim, en fait. Donc il y a les traitements, il y a les pièges à phéromones. Donc là, on en a mis un peu partout. Le problème du piège à phéromones, c'est que ça attire les mâles. Mais c'est les femelles qui pendent. Donc il suffit qu'il y ait un mâle qu'on n'ait pas attrapé, ben voilà, c'est raté. Mais voilà, ça permet...
Et ça fait diminuer les populations d'année en année.
Alors. Voilà. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'il n'y a plus de prédateurs.
Bien sûr.
Donc on sait que la pyrale, on va la garder longtemps. Même s'il n'y a plus de buis, elle s'attaque à l'écorce. Et puis il y aura toujours quelques buis qui vont repartir, donc ils vont s'attaquer derrière. Donc la solution, c'est de rééquilibrer le déséquilibre qu'on a fait. Pour le rééquilibrer, il faut réaugmenter la population de passereaux.
Donc, l'idée, c'est d'installer 50 nichoirs spécifiquement au parc de la Baume.
Oui, alors ça, c'est symbolique. Ça, hein. C'est symbolique. C'est bien un chiffre rond. Donc, et puis, 50-50, ça tombait bien. Alors, pourquoi 50 arbres ? Il y a 70 arbres au total. Donc, j'ai pris les plus vigoureux, ceux qui, je suis sûr, qu'ils seront là pendant encore pas mal d'années. Parce qu'il y en a quelques-uns qui vont mourir de leur belle mort, hein, comme tous les arbres.
Et vous faites appel à la population, c'est-à-dire voilà. Que l'idée, c'est qu'on puisse construire nous-mêmes nos nichoirs ?
Tout à fait. Donc, y a les objectifs, hein, c'est d'en mettre un par arbre. De faire remonter la population de passereaux. Donc, on n'est pas obligé de faire que pour les mésanges, hein, il y a tous les autres oiseaux. Hein. les rouges-gorges en font leur part, et puis augmenter le nombre de prédateurs sur la pyrale. C'est le but ultime. Comment ça marche ? Ben voilà, on propose.
Alors il y a des dépliants. Là je vois, donc voilà. Vous avez un dépliant qui indique tout de suite comment on construit son nichoir. Il y a un plan.
Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi, qui n'est pas négligeable dans la problématique des passereaux, c'est les chats. C'est les prédateurs naturels des passereaux en ville, c'est les chats et les rats. Les rats, c'est simple, hein, dès qu'il y a un nid, le rat il monte dans le nid, il prend l'œuf et il part. Le chat, c'est simple aussi, c'est la même méthode. Sauf que le chat s'attaque aussi aux adultes. Mmh. Et là, on a quand même des problèmes parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui laissent vaquer leurs chats.
Bah, les chats sont beaucoup dehors ici.
Ils sont beaucoup dehors. Et donc, moi, je n'ai jamais passé la rue du Bourg sans voir un chat. Et donc, ça fait partie des gros prédateurs. Hein. Faut pas le négliger.
D'où l'intérêt aussi de mettre les nichoirs en hauteur, hein, c'est ça ?
Voilà.
Vous êtes venu aussi avec un nichoir que vous avez fabriqué.
Voilà. Donc, double intérêt. D'abord, déjà, le mettre en hauteur. Mais bon, les chats et les rats, ça ne les dérange pas plus que ça. Et ensuite, de faire un nichoir bien particulier. Ça s'appelle un nichoir à balcon. Alors, je sais, c'est pas radiophonique, mais...
C'est pas grave, je vais prendre une photo. Je la mettrai avec votre voix.
Faut imaginer... comment dire, un T.
Ah, c'est un 1, oui, c'est comme un 1.
Voilà.
C'est comme une petite maison en bois, voilà, avec donc, un espace agrandi en haut.
En fait, il y a un petit balcon, là où se trouve le trou par où rentre l'oiseau.
Ouais, c'est le balcon.
Et il y a ce qu'on appelle, un balcon. Et l'intérêt de ce balcon, c'est que si l'oiseau voit arriver un rat, par exemple, l'oiseau, il rentre à l'intérieur, mm-hmm. et il se met juste à la sortie. Et là, il peut se battre contre le rat. D'accord. C'est-à-dire qu'il bouche le trou et puis avec son bec, il l'empêche de rentrer. Mmh. Et pour les chats, en fait, le chat n'arrive pas à couder sa patte pour aller chercher les petits qui sont dessous.
D'accord, donc c'est à la fois des nichoirs, mais des nichoirs pensés pour protéger en cas d'attaque.
Et l'autre particularité, parce que les mésanges, je vais y revenir dessus, parce qu'elles ne font rien pour ranger les choses, il faut qu'il y ait une possibilité d'ouvrir le nichoir.
D'accord.
Parce qu'une mésange ne reniche pas sur un nichoir déjà utilisé.
Il faut les vider chaque année.
Il faut les vider. Elle est compliquée. Hein. Et en plus, pourquoi en faire beaucoup ? Parce que, en fait, l'idéal, c'est entre 10 et 20 par hectare. Donc là, nous, on va décroître.
Vous allez surpeupler. On va faire
un lotissement surdensifié à oiseaux. Pourquoi on fait ça ? Parce que, en plus, monsieur, à partir de mi-janvier, va commencer à regarder à quel endroit il peut nicher. Et après, il va aller voir madame, qu'il va essayer de séduire. Et quand il aura séduite, il va lui montrer tous les endroits qu'il a repérés. Et ils vont choisir celui qui leur correspond le mieux. Donc il faut qu'il y ait du choix de disponibilité pour qu'on puisse justement être sûr qu'ils vont nicher.
D'accord.
Madame la mésange, est regardante, quoi.
D'où l'intérêt si vous voulez fabriquer votre nichoir, vous allez trouver les plans en mairie sur ce dépliant, peut-être en ligne aussi ?
Oui. Donc,
sur le site de la mairie ?
On devrait faire ça assez rapidement. Mais de toute façon, au pire, vous envoyez un petit mail à la mairie, je vous retourne le plan sans aucun problème.
Mais il y a ces dépliants qui sont un peu partout.
J'ai des personnes qui m'ont appelé. Oui, vous dites qu'il faut du 1,5 cm d'épaisseur de planche, mais moi j'ai du 18. Alors je dis, mais il n'y a pas de problème, je vous fais un plan spécifique pour vos planches de 18. Et donc, voilà, il y a...
Alors, avec l'idée de les installer mi-janvier, au plus tard, voilà. Donc vous pouvez vous y mettre pendant les vacances.
Voilà,
il est encore temps.
Vous avez vos enfants pendant les vacances, vous construisez un nichoir avec eux, c'est génial. Et en plus, il ne faut pas mettre de colle ni de peinture.
Pas de solvant.
Vous essayez de graver quelque chose sur le bois, sur le nichoir, comme ça vous pourrez identifier que c'est le vôtre. J'ai deux petits-enfants, des enfants qui en ont déjà amené deux à la mairie. Il y en a un qui a fait une étoile, il y en a un autre qui a fait un autre symbole pour pouvoir dire c'est le mien, là, celui-là, l'oiseau qui sort, là, il sort de mon nid.
Et à partir de quand on pourra voir ? Alors donc on les installe mi-janvier.
C'est la mairie qui va les installer parce que bon, je ne veux pas non plus que les gens aillent dans les arbres avec des échelles, c'est quand même dangereux. Donc on va le faire nous.
Assez haut.
Et donc on va faire ça mi-janvier. Donc mi-janvier, c'est parce que c'est à ce moment-là que que les mâles vont commencer à prospecter.
À prospecter leur
logement. Ce n'est pas encore le moment où ils vont les présenter à mesdames, mais c'est une prospection.
Quand est-ce qu'on pourra faire un petit peu un bilan de cette action, voir il faudra combien de temps, il faut au moins une portée.
Donc, en fait, il y a deux nichés par an. Donc, on verra vraiment l'intérêt fin juillet, fin août. Si là, on voit qu'il y a une recrudescence.
Le lotissement était bien habité.
Voilà. Et de toute façon, à partir de septembre, il faudra vider les nichoirs pour madame, pour que madame puisse reprendre.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Audras, d'être venu nous raconter
ces
choses extrêmement intéressantes sur notre environnement et notre vie à tous. Et de participer et de porter cette initiative. Donc 50 arbres, 50 nichoirs, il est encore temps de fabriquer le vôtre pour participer à cet effort collectif pour rétablir une population de passereaux digne de ce nom sur notre territoire de Dieulefi.
Même si on en a plus que les autres,
tant mieux. Et j'espère que vous viendrez nous revoir à Radiola, notamment parce qu'on a quand même vu sur la montagne de Saint-Maurice, mais surtout qu'on puisse faire le bilan un petit peu de ces actions dans quelques mois. Merci.
Merci vous aussi.
Radiola.media.